de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le 43e sommet de l'ASEAN se tiendra du 5 au 7 septembre 2023 à Jakarta. Le gouverneur de Java Oriental se félicite de la coopération dans le domaine du transport ferroviaire avec la République tchèque. L'ambassade d'Indonésie apprécie l'augmentation de la coopération dakwah entre l'Indonésie et Brunei Darussalam. Je termine de présenter maintenant le journal en complet. Le 43e sommet de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est se tiendra du 5 au 7 septembre 2023 à Jakarta. Le porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères, M. Tengku Faizasah, a déclaré jeudi que la tenue du 43e sommet de l'ASEAN était gérée par un comité national composé de ministères et de l'institution concernée. Contrairement au 42e sommet à Labuan Bajo, qui s'est tenu en mai dernier, le 43e sommet de l'ASEAN à Jakarta en septembre réunira non seulement les dirigeants des pays membres de l'organisation régionale, mais aussi les chefs d'État, les gouvernements des pays partenaires de l'ASEAN. Au cours du prochain sommet, on discutera entre autres du développement et du renforcement de la coopération de l'ASEAN avec des partenaires extérieurs. Le gouverneur de Java Oriental, Mme Khofifah Indar Parawansa, se félicite de la coopération prévue dans le développement des transports publics ferroviaires avec la République tchèque. Il a transmis après avoir reçu la visite de l'ambassadeur de la République tchèque en Indonésie, Jaroslav Dolecek, à son bureau de Surabaya jeudi. L'ambassadeur a déclaré que de septembre jusqu'à octobre prochain, il enverra une délégation à Java Oriental pour discuter plus en détail de la réalisation de la coopération dans le développement des transports publics ferroviaires qui avait déjà été discuté avec PT Industri Kereta Api à Jakarta. La délégation mènera des discussions concernant l'arrangement du développement des infrastructures de transport en commun rapide et de transport léger sur rail pour la connectivité des transports publics dans la zone agglomération du Grand Surabaya. L'ambassade d'Indonésie à Banda Sri Begawan a reçu la visite de la Fondation de Kejayaan Mualaf Indonesia qui s'est déroulée du 15 au 21 juillet. La visite vise à renforcer l'amitié et la coopération dans le domaine de la dakwah entre l'Indonésie et Brunei Darussalam. L'ambassade d'Indonésie à Bandar Seri Begawan aidera à faciliter le financement de l'encadrement des convertis à la fois par la Fondation de Kejayaan Mualaf Indonesia et d'autres parties en Indonésie. C'est ce qu'a déclaré le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade d'Indonésie à Bandar Seri Begawan, M. Irwan Iding, dans une déclaration écrite reçue par Antara jeudi. Lors d'une réunion avec le Centre pour Da'wah Islamia du ministère des Affaires religieuses Brunei, le groupe a également discuté des questions liées à l'apprentissage et à l'encadrement des convertis et à leur financement. Le gouvernement philippin surveille quotidiennement une éventuelle invasion chinoise de Taïwan afin de préparer un plan d'urgence pour le gouvernement du pays d'Asie du Sud-Est afin de faire face à éventuels conflits dans la région. Ainsi a déclaré le ministre philippin des Défenses Gilbert Teodoro aux journalistes jeudi, cité par Reuters. Les Philippines sont un pays géographiquement situé à proximité de Taïwan. La priorité du gouvernement philippin en cas de conflit est d'assurer la sécurité de ses plus de 100 000 citoyens qui vivent et travaillent à Taïwan. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministre coordinateur de l'économie, M. Erlangga Hartarto, a déclaré que l'Indonésie était désormais prête à devenir membre de l'Organisation de coopération et de développement économique. Cela a été dit par le ministre Erlangga lors de l'événement de la conférence sur les données et l'économie en Indonésie 2023 à Jakarta jeudi. Le ministre a expliqué si l'Indonésie réussit à devenir membre de cette organisation, l'Indonésie deviendra le troisième pays d'Asie après le Japon et la Corée du Sud à faire partie de l'organisation de coopération basée en France. Le ministre Erlangga considère qu'il est important que l'Indonésie devienne membre de cette organisation parce qu'en devenant officiellement membre, l'Indonésie est en mesure d'appliquer des normes plus élevées dans l'ensemble du processus législatif, tant dans le processus d'élaboration de la législation que dans les types de réglementation et de normes qui seront appliquées à chaque ministère et institution. Le Comité national paralympique indonésien, ou NPC, collabore avec l'Association sportive de Séoul pour les personnes handicapées de Corée du Sud pour améliorer les performances des athlètes handicapés et construire des installations d'entraînement aux normes internationales. Dans une déclaration écrite jeudi, le président du Comité national paralympique indonésien, M. Seni Marbun, a signé un protocole d'accord avec le vice-président principal de l'Association sportive de Séoul pour les personnes handicapées, Wang Jae-yun, à Séoul, la Corée du Sud, il y a quelque temps. Un certain nombre de programmes importants ont été convenus dans le protocole d'accord, y compris l'échange d'athlètes pour l'entraînement. Le président du Comité national paralympique indonésien a visité un terrain d'entraînement pour athlètes handicapés en Corée et a demandé un plan pour leur centre d'entraînement. C'est parce que le NPC Indonésie a l'intention de construire un centre d'entraînement aux normes internationales à Karanganyar, Java Central. Le ministère de la Communication et de l'Informatique étudie actuellement la tendance du commerce social ou e-commerce qui se développe actuellement dans la société, à savoir un phénomène intégré de médias sociaux et de commerce électronique pour les activités de transaction de produits. Cela a été déclaré par le ministre de la Communication et de l'Informatique, M. Budi Ari Setiadi, dans sa déclaration écrite, citée par Antara vendredi. Le ministre Budi Ari a souligné que son parti voulait étudier et s'assurer que cette pratique protège le public en tant que consommateur, mais n'empêche pas ses utilisateurs d'être créatifs. Le ministère de la Communication et de l'Information collabore avec des autres secteurs y compris des ministères et institutions liés à ce phénomène, afin de trouver la bonne solution pour le mettre en place. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission des commentaires d'aujourd'hui intitulée « États-Unis et Chine relancent la diplomatie climatique ». Les États-Unis et la Chine rétablissent actuellement une coopération pour lutter contre le réchauffement climatique par le biais de la diplomatie climatique. Cet effort a été marqué par la visite de l'envoyé spécial du président américain pour les affaires climatiques, John Kerry, du 17 au 19 juillet 2023 à Pékin. Selon Antara, 19 juillet, lors de sa rencontre avec l'envoyé spécial présidentiel chinois pour les affaires climatiques, Chie Chenhua, à Pékin, en Chine, lundi 17 juillet, John Kerry a déclaré « Il est très important que la Chine et les États-Unis fassent de réels progrès ». Ceci est lié à la coopération climatique dans les 4 mois précédents, la mise en œuvre de la conférence sur les changements climatiques qui se tiendra par les Nations Unies à Dubaï du 30 novembre au 1er décembre 2023. La réunion est connue sous le nom de COP28, la 28e conférence des parties de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique, UNCCC 2023. La prévention d'une catastrophe climatique mondiale dépend dans une large mesure des progrès de la coopération entre les États-Unis et la Chine. Les deux pays sont les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre au monde. Par conséquent, tout effort pour faire face à la crise climatique mondiale doit impliquer des réductions importantes des émissions des États-Unis et de la Chine. Comme cité par CNN.com, 30 octobre 2021, la Chine est le premier pays classé qui contribue aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit 26,1%, alors que les États-Unis occupent la deuxième place avec 12,67%. Sous l'administration Barack Obama, la coopération climatique était un élément important de la relation américano-chinoise. Elle était considérée comme essentielle pour ouvrir la voie aux négociations et au succès de l'accord international de Paris sur le changement climatique. Cependant, sous l'administration Trump, une grande partie de la coopération climatique bilatérale a été interrompue ou réduite. Par exemple, l'administration Trump a mis fin au groupe de travail américano-chinois sur le changement climatique, qui avait été formé en 2013. Dans l'administration Joe Biden, les discussions sur le climat ont brièvement repris, mais ont été interrompues l'année dernière à la suite d'une visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi. La visite de Kerry à Pékin marque cette fois la reprise des relations diplomatiques officielles de haut niveau sur le climat entre les deux pays. La rencontre entre John Kerry et Xie Chenhua, citée par Antara, 19 juillet, vise à rétablir la confiance entre les deux plus grands émetteurs de gaz à effet de serre au monde, dont les pourparlers ont été suspendus l'an dernier. L'instauration de la confiance est une première étape très importante pour faciliter un retour à la coopération climatique bilatérale entre les États-Unis et la Chine. Une fois la confiance établie, on espère que certains des mécanismes qui ont été construits avec la Chine lorsque les États-Unis étaient sous l'administration de Barack Obama pourront être renouvelés ou réutilisés. En outre, il est à espérer que l'engagement conjoint en faveur de la gouvernance mondiale du climat dans le cadre de l'accord de Paris pourra être poursuivi. Bonjour, Joëtard. C'est tout. Le commentaire.
La Voix d'Indonésie revient à la tenue du Voice of Indonesia International Quiz 2023. Cette année, le Quiz International Voix de l'Indonésie 2023 se trouve sous la forme d'un concours d'écriture sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, avec une longueur de 700 à 800 mots. Ariel 12 et les dossiers au courriel voequiz2023@gmail.com. Concours de rédaction ouvert du 10 avril au 25 septembre 2023. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix d'Indonésie. Les gagnants sont annoncés le 27 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devez l'un des gagnants. From Indonesia to the
world. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire aujourd'hui. Le 21 juillet 1945, les Pays-Bas ont mené leur première agression militaire contre l'Indonésie. Cette opération militaire a été menée par les Hollandais sur les îles de Java et Sumatra jusqu'au 5 août 1947. Cette première agression militaire néerlandaise a confirmé que les résultats de négociations de Linggarjati le 25 mars 1947 n'étaient pas valables. Les Néerlandais, à cette époque, ont commencé à prendre les armes dans un certain nombre de régions en Indonésie. L'objectif principal de la première agression militaire néerlandaise n'était autre que de s'emparer des zones de plantation et des ressources naturelles abondantes sur le sol indonésien. Les Pays-Bas ont qualifié cette action d'action de police et ont déclaré qu'il s'agissait d'une affaire interne visant à tromper la communauté internationale. Le nombre de troupes déployées pour mener à bien cette agression a atteint plus de 100 000 personnes équipées des principaux outils d'un système d'armes sophistiqué. L'Indonésie considère cette action comme une violation des négociations de Linggarjati. Le 21 juillet 1954, le Vietnam a été divisé en deux, tels que du Nord et du Sud Vietnam, en raison de la Convention de Genève en 1954. L'histoire rapporte également que le 21 juillet 1954, la population du Vietnam a été divisée en deux en raison de la géographie, à savoir le Nord Vietnam et le Sud Vietnam, en raison de l'existence de la Convention de Genève du 21 juillet 1954. La convention a eu lieu après la guerre Indochine entre le Sud-Vietnam, soutenu par la France, et le Nord-Vietnam, soutenu par la Chine et l'Union soviétique. Le 21 juillet 1983, la température à la station de recherche russe Vostok en Antarctique chute 1983. Selon l'histoire, la température la plus basse jamais enregistrée était de 89,2 Celsius, relevée à la station russe Vostok le 21 juillet 1983. Un certain nombre de sources affirment que la principale station de base russe en Antarctique, Vostok, est surveillée par des satellites pour avoir des températures très basses. La station de recherche de Vostok est située à une altitude de 3488 mètres au-dessous du niveau de la mer. À cette époque, c'était officiellement l'endroit le plus froid sur Terre, après avoir mesuré moins 89,2 degrés Celsius le 21 juillet 1983. À cette époque, on l'appelait que l'emplacement était l'un des endroits les plus inaccessibles et inhospitaliers sur Terre. Néanmoins, environ 25 scientifiques y habitaient en été avec des températures de moins 31 degrés Celsius. Seulement environ 13 personnes y survivent pendant le long hiver, où les températures peuvent atteindre moins 85 degrés Celsius. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Project Pop is in the house, y'all.
Lihatlah dirimu seperti tak ingin mau lanjutkan hidup. Maybe kamu patah hatimu, pacarmu mengkhianatimu. Mungkin tak peduli, jangan berhenti, kayak mau mati. Baby, you gotta wake up. Baby.
makan-makan, pergi liburan.
Asyikan. Karaoke.
Asyikan.
Shopping-shopping.
Asyikan.
Walking-walking.
Asyikan.
Yang penting awak hatimu happy tenang.
Begini kamu yang rugi, dianya mungkin tak peduli. Jangan berhenti kayak mau mati, baby you gotta wake up.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia, voici Mon Indonésie. Mon Indonésie d'aujourd'hui est intitulée « Le ministre des Finances a expliqué la dureté de l'économie indonésienne devant les pays du G20 ». La performance économique de l'Indonésie reste résiliente face aux chocs économiques mondiaux. C'est ce qu'a déclaré le ministre indonésien des Finances, Sri Mulyani, lors de la première session de la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G20 à Gandhinagar, Inde, mardi, le 18 juillet. Cité par Antara dans sa déclaration officielle mercredi, Sri Mulyani a expliqué que pendant six trimestres consécutifs, la croissance économique de l'Indonésie a été constamment maintenue à environ 5%. Cette condition est assez bonne par rapport à plusieurs autres pays en ce moment. Sri Mulyani a ajouté qu'une combinaison de politique budgétaire et monétaire devenait une clé importante pour y parvenir dans l'une passée par la discipline en vue de l'assainissement budgétaire après la pandémie de COVID-19. Lors de la première session, le ministre des Finances de la République d'Indonésie a également évoqué les priorités de l'Indonésie en termes de mécanismes indonésiens de transition énergétique et de fonds pandémiques qui était une initiative de la présidence indonésienne du G20 l'année dernière. Sri Mulyani a souligné que cette question continuera d'être exprimée par l'Indonésie dans divers forums multilatéraux tels que le G20 et ASEAN. Conformément à la première session, lors de la deuxième session, Sri Mulyani a également discuté des mécanismes de financement pour parvenir à un développement durable grâce aux mécanismes de transition énergétique. L'Indonésie a lancé l'année dernière la plateforme nationale de mécanismes indonésiens de transition énergétique qui a actuellement reçu un financement de 500 millions de dollars américains pour accélérer la fermeture des deux projets d'électricité au charbon de 1,6 gigawatts. Enfin, Sri Mulyani a également évoqué l'agenda de la présidence indienne du G20, à savoir « Financing Cities of Tomorrow ». Il a déclaré que l'Indonésie soutenait et appréciait vraiment cette initiative, en particulier lors de l'événement de dialogue sur les infrastructures. Elle a dit qu'il était très important de pouvoir continuer à construire le monde, mais en même temps continuer à protéger la terre.
Setu Monang Donesi.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Jabat tanganku mungkin untuk yang terakhir kali kita berbincang tentang memori di masa itu. Peluk tubuhku, usapkan juga air mataku. Kita terharu seakan tiada bertemu lagi. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita rindukan di hari nanti. Sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita banggakan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita rindukan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Da 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 da. Mungkin diriku masih ingin bersama kalian. Mungkin jiwaku masih haus sanjungan kalian.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter les magazines culturels. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de magazine culturel. Je vais vous présenter cette fois la danse Bujangganon. Chers amis, cette fois, nous vous présentons l'une des danses typiques de Boyolali, à savoir la danse Bujangganon. La danse Bujangganon est un type de danse très attrayant qui représente un personnage, à savoir Patti Bujanganon, qui a une forte volonté, est intelligent et aussi plein d'esprit. La danse Bujanganon a été développée en 1980. Les danseurs de la danse Bujanganon portent des masques avec des visages géants, des yeux exorbités, des visages rouges, des dreadlocks et des dents tordues. Sagittaire, cette danse fait partie de la danse Ryog Ponorogo. Dans la mise en scène Ryog Ponorogo, Bujanganon est généralement interprété par deux personnes. Ce personnage est toujours très attendu par le public, en particulier les enfants. En raison de sa gentillesse, la danse Bujanganon dans ses mouvements de danse affiche des acrobaties attrayantes et extrêmes. Dans les temps anciens, lorsque deux groupes se rencontraient lors d'une procession, chaque groupe Ryog exécutait un célibataire Ganon pour un duel acrobatique. Les mouvements de base de la danse Bujanganon comprennent le Besut, mouvement de connexion pour quatre temps, les offrandes, les mouvements amusants, Gechul, le double saut d'hiver Inchengan, ces mouvements d'espionnage, le Lampartelou, se tresser, le Bapangan, les acrobaties, la frappe joyeuse des buts et le double saut. Lorsqu'ils dansent, les danseurs de Bujanganon portent du binga, ces bracelets ou bandeaux sur la tête, des gilets rouges à rayures noires, des ceintures, ces châles rouges et jaunes, des épectimans, ces ceintures, des stagen, des zembon gombion, des pantalons dinkikan. Sur les jambes, il y a un vêtement qui couvre la région génitale, un bon gombiok, un pantalon jusqu'au genou, pantalon haut, des bracelets de cheville binga. Bon, chargé d'état, c'est tout, le magazine culturel.
Bersamamu tetap cantik rambut panjangmu. Meskipun nanti tak hitam lagi, bila habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada dunia. Telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu, dan telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia. Karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de l'Indonésie en couleur, intitulée « Unisa a remporté 7 prix au concours de robots de niveau asiatique ». Vous êtes avec moi Audrey. Serge Littard, l'équipe de la faculté d'ingénierie de l'Université d'État de Surabaya, Unisa, a remporté 7 prix. En même temps, dans le cadre du concours de robots de niveau asiatique, The Second Regional Association of Vocational and Technical Education in Asia, RAFT, Student Innovation Award 2023, qui s'est tenu en ligne. Le superviseur de l'équipe FT UNESA, Mohamed Sharifoudine Joufri, a expliqué que les 5 équipes qui ont participé, 2 d'entre elles ont reçu des médailles de bronze et 5 équipes ont reçu des prix spéciaux. L'équipe qui a reçu des prix à la fois Bronze Award et Special Award Best Quality est l'équipe de robots Audi, c'est Autonomous Underwater Drone of Indonesia System. Il s'agit d'un sous-marin sans pilote conçu pour les installations de soutien à la sécurité maritime. Ce robot est en développement des résultats de recherche antérieure d'une équipe qui a participé au National Unmanned Wrasse Ship Contest KKCTBN 2022. Ce robot a de petites dimensions avec une masse relativement légère, des coûts de conception et de fabrication faibles. Ce robot est équipé d'une couverture en fibre de verre et d'aluminium et d'un cadre de carrosserie qui est censé être résistant aux chocs, aux fortes pressions et aux vagues sans être corrosif, ce qui rend l'Audi relativement durable. Un autre travail est de Our Robots. C'est Autism Therapy Robot System, un robot humanoïde conçu comme un moyen d'apprentissage pour les enfants autistes. En tirant parti de l'Internet des objets ou Internet of Things, IoT, et de la technologie, ces robots sont utilisés pour améliorer les méthodes de réadaptation et d'intervention précoce pour les enfants atteints de troubles du spectre autistique, TSA. Le robot est censé être capable de surveiller et d'observer le développement des enfants atteints de troubles autistiques précoces afin d'optimaliser leur capacité en fonction de leurs besoins. Ce robot est également programmé sur la base d'un programme d'intervention initiale dans l'activité motrice. Bon, chers auditeurs, c'est tout. L'Indonésie en couleur.
Tempat di hatiku kan. Hari-hari kita menjalani berdua begitu teramat indahnya. Aku pun semakin tulus mencintaimu karena kau begitu mengertiku dan memberi pelangi di hidupku.
La Voix d'Indonésie revient à la tenue du Voice of Indonesia International Quiz 2023. Cette année, le Quiz International Voix de l'Indonésie 2023 se trouve sous la forme d'un concours d'écriture sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lak Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, avec une longueur de 700 à 800 mots. Arial 12 et les dossiers au courriel voiquiz2023@gmail.com. Concours de rédaction ouvert du 10 avril au 25 septembre 2023. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix d'Indonésie. Les gagnants sont annoncés le 27 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devez l'un des gagnants.
From Indonesia to the world.
Tatap mata tak sengaja buat hati tak menentu. Bila datang dari kamu, tak mampu menahan suara di kepala, jantung meledak rasanya. Cinta datang tiba-tiba, mau tak mau. Situasi yang tak kena waktu, tak kena waktu. Gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku, kau cahayaku selalu. Kembali berpijak di bumi. Pengamen kereta sadari bila ku telah jatuh.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons la chanson de Sumatra du Sud intitulée Chup Mailang. Sans retard, cette chanson est une chanson caractéristique de la région de Palembang dont on se souvient encore et qu'on chante encore aujourd'hui. Cette chanson de Chup Mailang raconte une histoire d'amour. Les paroles sont sous forme de rimes qui décrivent l'amour. Bon, chers auditeurs, voici Vienna Vridiana va chanter une chanson intitulée Chup Mailang de Sumatra du Sud. Bonne écoute.
Chup Mailang, Mailang jaga batu, di mano koceng belang, di situ rumah aku.
Coba hilang, jaga batu. Di mano kau jembelang, di situ rumah aku.
Kapal api masuk Palembang, banyunya tenang jadi gelombang. Oi mak mano, ati dah bimbang.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voiceindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.